Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver pour l'hebdo avec ma petite bande et Mastra, Christophe Brun et Patrice Romeden. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Au sommaire Emma.
Après l'hypnose et l'acupuncture, je m'intéresse aujourd'hui à l'homéopathie, une thérapie bien aimée des Français, un peu moins de la science. Et j'aurai l'occasion de vous parler du fameux effet placebo que j'évoquais il y a 15 jours.
Patrice.
Francisco de Goya, c'est lui dont on parle ce matin. Immense peintre espagnol à cheval sur les 18 et 19e siècles, l'un de ceux qui initièrent le romantisme. Alors il souffrait d'acouphènes, figurez-vous, et il a terminé sa vie complètement sourd, mais ça l'a aidé à réaliser quelques-unes de ses plus belles toiles, paradoxalement.
Christophe.
Rhythm is Love, magnifique groove de Kezia Jones pour illustrer notre thème du jour, le rythme. Ou comment, heure par heure, en fonction des moments de la journée, votre petit corps de rêve est dans les meilleures dispositions pour faire telle ou telle chose, pour bouger, pour réfléchir, pour dormir. Vous verrez à quel moment correspondent le mieux nos différentes capacités ou nos différents besoins. En attendant, Pascal, envoie-nous le rhythm.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Emma, dans votre série consacrée aux médecines alternatives et complémentaires, on va s'arrêter aujourd'hui sur l'homéopathie. Ça veut dire homéo semblable en grec et pathie, c'est ce qu'on éprouve.
Voilà, et c'est le grand principe de la pratique qu'on appelle aussi le principe de similitude. On le doit à un médecin allemand, Samuel Hahnemann, à la fin du XVIIIe siècle. Il avait constaté que le quinquina, capable de guérir de la fièvre intermittente, donc la malaria, pouvait aussi provoquer des symptômes de cette fièvre chez une personne en bonne santé. Donc, il a exploré cette piste qui consiste finalement à soigner le mal par le mal, c'est-à-dire appliquer en traitement d'une maladie une substance capable de produire les symptômes de cette même maladie.
Oui, en fait, c'est un médicament qui rend malade. En fait.
Voilà, ça c'était le risque et Samuel Hahnemann s'en est vite aperçu. D'où le deuxième grand principe de l'homéopathie qui contient des quantités minimes, infinitésimales de traitement, justement pour éviter d'intoxiquer le patient.
Alors Emma, l'homéopathie fait partie des thérapies complémentaires hein, qui ont été reconnues par l'ordre des médecins. Elle a longtemps été remboursée jusqu'à cette année. Mmh. Pourtant, on n'a jamais vraiment, pardon pour ceux qui sont des adeptes de l'homéopathie, mais c'est un des grands reproches qu'on fait à cette métier, on n'en a jamais vraiment démontré scientifiquement son efficacité.
Et pourtant, on a cherché. Hein, comment ça marcherait d'abord? C'est-à-dire, dans les années 80, il y a eu des travaux sur la mémoire de l'eau. L'objectif était de démontrer que même ultra dilué dans l'équivalent d'un océan, une molécule laissait une trace, mais en effet, rien n'a été prouvé. On a aussi cherché à évaluer l'efficacité de l'homéopathie. C'était même l'enjeu majeur pour décider justement ou non de maintenir son remboursement. Et résultat des travaux de la Haute Autorité de Santé qui a épluché plus d'un millier de publications, pas de preuve de son efficacité, ni sur les troubles de l'anxiété, ni sur les verrues plantaires, ni en soins de support oncologique, ni pour les infections respiratoires de l'enfant, rien du tout.
Alors, même si les preuves manquent, les Français sont très attachés quand même à l'homéopathie.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. D'après un sondage Odoxa qui avait été réalisé en 2019, 72% d'entre eux sont convaincus des bienfaits de l'homéopathie contre seulement 33% des médecins. Donc c'est peut-être l'expérience versus la science, ça je ne sais pas.
Et là vous allez nous parler de ce thème qui vous est cher et que vous nous aviez suggéré il y a
peu. Vous avez vu, je l'ai placé. Hein.
L'effet placebo.
Oui, parce que quand les études trouvaient une trace d'efficacité, elle était comparable à celle du placebo. Et c'est pas rien, puisqu'on estime qu'il est efficace dans 30% des cas. Alors, ce qu'on appelle un placebo, c'est une substance inactive que l'on donne sous la forme d'un comprimé, d'une solution injectable, d'un liquide. Donc ça a l'allure d'un médicament, mais en fait, ça ne contient aucune molécule spécifique. Et pourtant, il y a un effet thérapeutique, on soigne le mal par un leurre finalement.
Oui, alors dans les études scientifiques, c'est une base de comparaison hein, qui permet d'évaluer l'efficacité ou non d'une molécule pharmacologique. Si la molécule fait mieux que le placebo, ben on estime qu'elle est efficace.
Et à l'inverse, on a du mal à comprendre les rouages de l'effet placebo. La relation de confiance avec le médecin qui prescrit joue probablement un rôle, ou simplement le fait de penser prendre un médicament, donc un effet psychologique probablement. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, et peut-être que c'est le troisième pilier de l'homéopathie. l'homéopathie finalement.
Alors, je vous pose la même question à chaque fois que vous nous parlez d'une médecine complémentaire. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires? Est-ce que ça peut être dangereux l'homéopathie?
En soi, non, puisqu'il n'y a pas grand-chose dedans. Le risque, c'est de passer à côté d'une pathologie sérieuse. Il y a eu un drame il y a 4 ans en Italie. Un petit garçon de 7 ans est mort après une otite mal soignée avec de l'homéopathie. Donc soyons clairs, ce n'était pas l'homéopathie à proprement parler qui l'a tué, mais la prise en charge totalement inadaptée pour son cas. La presse rapportait 15 jours de fièvre ininterrompue, or un traitement qui n'agit pas sous quelques jours, c'est le signal qu'il faut absolument réévaluer la situation. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de consulter son médecin.
Alors, je rappelle quand même que si l'homéopathie n'est plus remboursée par la Sécu, elle reste commercialisée, bien évidemment. Un autre élément important qui avait été soulevé par la Haute Autorité de Santé dans son avis, c'est qu'on n'a pas besoin de recourir aux médicaments, notamment pour des maladies bénignes dont les symptômes disparaissent spontanément. Vous avez un petit quiz sur le placebo?
Comme je tiens mon petit sujet placebo, voilà. Je ne vais pas le lâcher comme ça. Alors, on parle de placebo, mais vous savez d'où ça vient ce mot?
De l'italien.
Non, ouais, j'allais dire espagnol. Mais...
bah, du latin, donc voilà, vous n'êtes pas complètement faux. Pas complètement.
De placere.
Ouais, placere, qui est le premier mot d'un psaume qui a été intégré à la liturgie catholique dans le cadre de l'office des morts. Donc c'est pas très fun. Et très vite, ça a désigné les pleureurs professionnels, ceux qui ne sont pas forcément touchés de près par la disparition du défunt, mais qui chantent le psaume pour se faire un peu d'argent, pour faire l'aumône, quoi.
D'accord.
Et alors, mais quel rapport avec le placebo, alors, finalement?
Bah, c'est le fait qu'ils pleurent pour de faux.
C'est le faux.
Voilà. On est dans le leurre.
Voilà. On est dans le leurre.
Si le placebo peut améliorer l'état du patient comme le ferait un médicament, il peut aussi comporter des effets indésirables. C'est vrai ou c'est faux?
Moi, je dis non.
Et moi, je dis oui. Et ça s'appelle l'effet nocebo.
Il sait tout, il est imbattable. L'effet nocebo, c'est-à-dire qu'un patient peut développer des effets indésirables, très puissants même parfois, mais qui ne reposent pas sur une explication tangible liée à la prise d'une molécule toxique. Donc. Et il semble même que la peur de développer des effets indésirables liés à la prise de certains médicaments peut faire apparaître des douleurs plus que le médicament lui-même.
Wow. Absolument, dingo, tellement les gens sont persuadés d'avoir pris le médicament.
Exactement.
Petite dernière.
Encore.
Les animaux sont également sensibles au placebo, c'est vrai ou c'est faux?
Je veux le croire.
Ils ont une conscience.
En tout cas, on donne de l'homéopathie aux chevaux, notamment. Ouais, tout à fait. Et ce qui fait dire aux défenseurs d'ailleurs de l'homéopathie, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de quelque chose dans l'homéopathie qui soigne, puisque les chevaux, on ne peut pas les convaincre que l'homéopathie est bonne pour eux. Donc si ça marche chez eux, c'est qu'il y a bien quelque chose.
Ouais, c'est ça. Il semble que ce soit vrai. Alors pour les animaux, on dira davantage qu'ils peuvent être conditionnés, par exemple par l'attitude plus ou moins anxiogène et rassurante des maîtres. Mais c'est vrai qu'il y a, des... Je crois qu'on en a donné aux poules aussi. Il y a eu des essais qui ont été faits sur des poules. Donc c'est assez fascinant.
Des œufs granuleux.
Oui. Vous avez du mal avec les granules.
On se retrouve dans quelques instants et on va rester avec Maître Capello, avec Patrice, pour parler de Chantal Goya. Non,
c'est pas ça. On aimerait bien, mais non.
À tout de suite.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Mais dites-moi, Patrice, c'est quoi cette histoire?
La musique?
Oui.
Goya.
Chantal Goya, oui. Mais parce que l'idée ce matin, c'est quand même d'évoquer un pan de la vie de Goya, mais Francisco de Goya.
Ah, d'accord.
Francisco, le peintre espagnol. Alors, son problème à lui, c'était les acouphènes.
Oui, alors moi, je dis, quand il y a un problème, cherchez la femme, ou plutôt, en l'occurrence, les femmes.
Ouais, hein, d'accord. Vous allez vous faire plein de copines comme ça, vous.
Non, mais à l'origine des malheurs de Goya, il y a une guéguerre de femmes, Emma. Bon. D'un côté, la reine d'Espagne, Marie-Louise de Bourbon-Parme, et puis de l'autre, la duchesse d'Albe. Et elles rivalisent de beauté, de fierté, de frivolité, se disputent même les mêmes amants, souvent des toréadors d'ailleurs.
Mais la patronne, c'est la reine, et la patronne a toujours raison. La querelle de sac à main tourne mal pour la duchesse qui est forcée de s'exiler direction le sud de l'Espagne, près de Cadix.
Alors, Francisco de Goya est alors portraitiste officiel à la cour d'Espagne, mais il en pince pour la duchesse, donc il décide de la suivre. Alors c'est parti, roulez carrosse, l'hiver est particulièrement froid, on voyage à bord d'une chaise roulante tirée par un cheval, et puis soudain, c'est l'accident. La chaise est rompue, il faut réparer. Alors Goya est forcément l'homme de la situation, il décide de fabriquer lui-même la pièce qui permettra de remettre le véhicule en état de rouler. Alors, pour travailler le métal, il a besoin de chaleur. Il allume un feu, se met au travail, mais il prend froid, ce dont il ne se remettra jamais. Parvenu à Cadiz, Goya est pris de vertige, il ne peut plus bouger et ça va durer pendant plusieurs mois. Et puis, peu à peu, sa paralysie va s'estomper. Il réapprend à marcher, mais un bruit lancinant, fait de bourdonnements et de sifflements, ne le quitte plus. Il souffre d'acouphènes parce qu'il est devenu sourd. Il a alors 46 ans.
Et c'est ce qui va bien sûr faire basculer la vie de Goya. Fatalement, il va s'isoler, son inspiration change et elle est le fruit d'une forme de recueillement.
Alors oui, vous allez voir comment l'histoire de la bobologie peut influer sur celle de l'art. Goya, qui avait toujours été au service de la maison royale, hein, décide de peindre ce qui lui chante. Ce faisant, eh bien, il laisse éclore son génie. Résultat, en 1799, il publie Les Caprices, un recueil de gravures interprété comme un réquisitoire social, où il dénonce l'hypocrisie et l'archaïsme de la société espagnole. Et puis en 1814, il signe son tableau le plus célèbre, El Tales de Mayo. Christophe, hablas espagnol ?
Si, le 3 mai. Donc.
Voilà, alors, le 3 mai auquel il est ici fait allusion. Et le 3 mai 1808, le tableau évoque les exécutions d'Espagnols innocents par des Français. Et puis il dit l'essentiel des horreurs de la guerre, de la brutalité de l'époque. C'est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses du célébrissime musée madrilène du Prado.
Et Goya est infirme, hein, ça va nourrir sa colère et son désespoir, ça va transpirer dans ses œuvres. Désormais, il peint pour lui et lui seul, et ça donne la fameuse série des peintures noires.
Alors, l'appellation est à prendre au propre comme au figuré, hein, tant les sujets traités manquent de gaieté et les teintes utilisées sont sombres. Ces peintures révèlent un univers cauchemardesque et trahissent effectivement une humeur massacrante. Elles symbolisent le tourment du peintre que la surdité et les acouphènes accablent. En 1824, d'ailleurs, Goya prétextera des soins qui lui seraient dispensés en France pour s'exiler du côté de Bordeaux. Et c'est là qu'il s'éteindra, 4 ans plus tard, à 82 ans quand même. Hein. Belle perf pour l'époque, ouais. Hein. 82 ans.
Docteur Alain Londéraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste français des acouphènes. Alors je dis ça, il ne faut pas trop le crier parce que sinon vous allez avoir les 2 millions d'acouphéniques français qui vont venir vous voir.
Mais surtout, il y a beaucoup d'autres spécialistes dans les réseaux multidisciplinaires qui sont tout à fait à même de prendre en charge les patients qui se plaignent d'acouphènes.
Alors disons que vous êtes notre référent acouphènes. Voilà. Combien d'acouphéniques en France ?
Alors c'est difficile à dire, mais plusieurs millions, entre 4 et 10 millions, en fonction de comment on compte, c'est-à-dire est-ce que c'est seulement les gens qui perçoivent un acouphène, mais qui finalement s'en plaignent peu, ou ceux qui vraiment en souffrent beaucoup, eux sont bien sûr moins nombreux.
Quand on voit des patients qui souffrent d'acouphènes, ils sont, j'ai envie de dire, 9 fois sur 10 passés entre les mains de médecins, que ce soit généralistes ou otorhinos, qui leur ont dit « il n'y a rien à faire ».
Ils n'existent pas, certes, aujourd'hui, de traitements qui permettent d'éradiquer complètement l'acouphène. On ne dispose pas de médicaments en particulier que l'on puisse donner sur une courte période de temps et qui font disparaître la perception parasite que constitue l'acouphène. Mais il existe inversement de nombreuses thérapeutiques qui vont de l'appareillage auditif qui peut rendre service à certains patients, ou aux techniques de psychothérapie comportementale, ou à certains médicaments qui peuvent aider en particulier pour récupérer un meilleur sommeil. Enfin, toutes sortes de thérapeutiques qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients qui se plaignent beaucoup de leur acouphène et de les amener à une situation de confort qui est, si ce n'est parfaite, en tout cas bien meilleure que celle qu'ils connaissaient avant d'être pris en charge de façon multidisciplinaire.
Patrice.
Il semblerait que les acouphènes soient aussi potentiellement des traces laissées par le Covid. Est-ce que c'est ce que vous avez pu constater auprès de vos patients ?
L'infection par le SARS-CoV-19, plus communément appelé Covid, donne toute une kyrielle d'atteintes neurologiques, essentiellement au niveau du système olfactif, hein, c'est connu maintenant de tout le monde, mais également au niveau du système auditif. Et effectivement, quelques publications ont fait état de patients qui, dans les suites d'une infection Covid, vont avoir non seulement ces pathologies olfactives, mais aussi des pathologies neurologiques et, bien évidemment, dans le cadre de ces pathologies neurologiques plus diffuses, des atteintes auditives. Alors, probablement par le biais d'une atteinte directe du virus sur le système auditif périphérique, c'est-à-dire l'oreille, mais aussi au niveau central, c'est-à-dire toutes les voies auditives cérébrales qui permettent d'intégrer l'information auditive.
Emma.
Les acouphènes sont toujours liés à une moins bonne audition ou à une perte de l'audition ?
la majorité des pathologies qui déclenchent les acouphènes sont des pathologies auditives. Maintenant, il existe une minorité de patients qui ont, si ce n'est une audition strictement normale, en tout cas une audition peu altérée. Et dans ce cadre-là, on peut aller chercher des causes qui sont extra-auditives, en particulier des problèmes musculosquelettiques, c'est-à-dire des problèmes de muscles et et d'os, en fait, et d'articulation. Et dans ce cadre-là, les problèmes d'articulation temporomandibulaire, l'articulation de la mâchoire, sont souvent mis en cause.
Donc ça veut dire que la prise en charge, elle change en fonction de l'explication aux acouphènes, quoi.
Bien sûr, il y a une phase de diagnostic au départ. L'acouphène n'est jamais qu'un symptôme, ça n'est pas une maladie. Il faut essayer du mieux possible de déterminer la cause ou les causes de l'acouphène, parce qu'elles peuvent ne pas être strictement uniques. On peut avoir un acouphène, par exemple, qui est majoré par des états de stress ou un problème d'articulation mandibulaire et qui est au départ lié à un trouble auditif. Et donc, il faut s'acharner, s'escrimer à déterminer la cause du mieux possible de façon à essayer d'adresser, comme on dit, ces différentes hypothèses écologiques pour pouvoir les traiter de la meilleure façon.
Merci beaucoup, docteur Alain Landéraud. Je rappelle que vous êtes otorhino-laryngologiste et que vous êtes un des spécialistes français des acouphènes. Merci pour toutes ces explications.
Merci de ces précisions et bonne journée à vous.
Merci, au revoir. Dans quelques instants, la troisième partie de l'émission, on va jouer. Ça va être la partie récré avec le jeu auditeur. À tout de suite.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la troisième partie de l'émission, la partie récré. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec la galaxie Dr Good, le magazine Dr Good qui est en kiosque en ce moment, avec En finir avec le mal de dos, et également le magazine Alimentation, Nutrition de Dr Good, le magazine C'est bon, avec une fraise en couverture, et vous aurez tout un dossier sur ce que vous devez manger pour booster vos défenses immunitaires, ce qui n'est pas inutile à ce moment de la pandémie, même si les choses vont mieux, heureusement. Nous allons donc jouer, et on va jouer aujourd'hui avec Aurélie. Bonjour.
Bonjour Michel.
Aurélie, vous habitez Grenade ?
Oui.
Mais pas en Espagne ?
Non, au nord de Toulouse.
Au nord de Toulouse. À chaque fois que vous dites vous habitez Grenade, on vous dit, ah bon, vous habitez en Espagne ?
Non, et en plus, je suis originaire d'un village à côté de Grenade sur la Dour.
Ah d'accord, oui.
Et là, j'habite à Grenade sur Garonne. Donc, il y a plein de Grenades en France et ailleurs.
Donc, il n'y a que moi qui vous fais cette réflexion. Très bien.
Désolé.
Bon, non, mais c'est pas grave, vous m'avez bien humilié. Merci. Alors, Aurélie, je souhaite quand même que vous puissiez gagner ce jeu. Vous allez jouer. Aurélie, vous allez. Ça fait beaucoup marrer mes copains, là. Vous allez jouer.
Il est tout chamboulé, Michel.
Pour un séjour pour deux personnes avec un dîner dans la belle ville de Caen. Alors, vous serez hébergé à l'hôtel 4 étoiles Le Dauphin, qui est une des plus belles adresses de Caen, avec accès au spa. Vous découvrirez les plages à proximité. On a prévu une visite du mémorial de Caen, une visite du centre historique, avec l'abbaye des Hommes et le château de Guillaume le Conquérant. Voilà, vous passerez un week-end à Caen si vous gagnez, Aurélie.
Très bien.
Alors, vous écoutez. Je ne sais pas si je vais vous aider aujourd'hui. Alors, vous savez que dans cette émission, on parle santé et donc sport. C'est donc une question liée à l'histoire du sport que nous vous posons aujourd'hui. Dans les années 80, l'athlète Zola Bod, c'est comme ça qu'on dit, Christophe, hein ?
Tout à fait.
Bat à deux reprises le record du monde du 5000 mètres. Elle décroche également par deux fois le titre de championne du monde de cross. Mais la jeune femme est aussi restée dans l'histoire pour une autre raison liée à son équipement de sportive version Emma.
Oui, Zola Bud avait pris l'habitude de courir avec un petit sac à dos lesté d'un poids de 3 kilos. En fait, elle resserrait les bretelles du sac pour bien faire corps avec lui. Alors pour n'importe qui, ça aurait constitué un handicap, mais pas pour elle. Elle expliquait que ce poids accentuait son élan quand elle avait trouvé son rythme de croisière.
Surtout en descente.
Oui, en descente, oui, j'allais dire. C'était une course de 5000 mètres de descente. Donc elle était partie de l'Himalaya. Version. Non, mais on ne peut pas aider.
Non, attention.
C'est une version tout à fait crédible. Version Patrice.
Buenos dias, Aurélia. Vous êtes de Grenade, hein, c'est ça? Alors, Zola Bud s'est surtout signalée par son absence d'équipement. Elle avait pris l'habitude de s'entraîner pieds nus et, lors des grandes compétitions, elle ne changeait rien. Elle courait bel et bien pieds nus, y compris lors des compétitions de cross qui se déroulent sur des surfaces un peu rugueuses pour la plante des pieds. Quand
elle ne devait pas avoir la plante des pieds très douce au toucher.
Ah bah oui.
Merci au Christophe.
Alors, Zola Budd courait avec des chaussures qu'elle remplissait de petits cailloux. c'est pas que le petit poussait, ça paraît dingue, mais pourtant, quand on l'interrogeait sur cette manie, elle expliquait que ça générait une douleur supportable, mais surtout que ça l'incitait inconsciemment à allonger sa foulée et à écourter le temps d'impact du pied sur la piste. Et c'est pour ça, disait-elle, qu'elle gagnait et qu'elle courait plus vite.
Avec des petits cailloux pendant donc 5000 mètres. Alors, vous avez trois versions.
On l'appelait le petit poussé, d'ailleurs.
Aurélie, voilà. Oui, c'est ce qu'a dit Christophe. Vous n'écoutez pas, mais c'est pas grave. Alors, la version d'Emma, elle a la bonne idée de se mettre un sac. Alors, en fait, c'est 3 kilos sur le dos. Hein, c'est plus facile pour courir, pour trouver son rythme. La version de Patrice, on va courir pieds nus. C'est plus sympa. Et puis, la version de Christophe, comme c'est trop simple, on va se mettre des cailloux dans la chaussure. Voilà. À vous de jouer, Aurélie. Je ne peux malheureusement pas vous aider puisque la dernière fois qu'on a aidé, j'ai été sermonné par les gens qui s'occupent des dents quand Patrice a tout fait pour que notre auditrice gagne. Donc, quelle est la réponse pour vous, Aurélie?
Elle court pieds nus.
Ah, bravo, Aurélie! Elle court pieds nus. Expliquez-nous ça, Patrice.
Alors, Zola Budd, effectivement, courait pieds nus et ce n'était pas une question de moyens. Elle expliquait que pour elle, c'était tout à fait naturel que ses enfants, par exemple, allaient à l'école pieds nus. Alors, je rappelle qu'elle a couru pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'Angleterre. En fait, elle a changé de casaque parce que dans les années 80, il était arrivé que l'Afrique du Sud fût exclue des compétitions internationales pour cause, évidemment, d'apartheid. Alors, d'autres sportifs ont couru pieds nus. Le cas le plus emblématique, c'est celui de l'Éthiopien Abebe Bikila, en 1960, aux Jeux Olympiques de Rome. Et d'ailleurs, ce jour-là, le jour du marathon, il remplace un coureur blessé. Alors, il arrive, on lui donne une paire de chaussures, mais ça ne lui convient pas. Donc, il s'élance pieds nus, sous les regards goguenards de la foule. Et le problème, c'est qu'il met tout le monde d'accord en décrochant l'or olympique. Mais par la suite, il trouvera chaussures à son pied. Il ne courra plus jamais pieds nus après ces Jeux de 60. Quoi.
Bien belle histoire. Aurélie, vous avez donc gagné un séjour pour deux personnes avec un dîner à Caen. Vous allez aller à l'hôtel 4 étoiles Le Dauphin, qui est une des plus belles adresses de Caen. Et vous avez le droit de tout faire et on vous fera visiter cette belle ville. Bravo,
merci
et merci. Et puis, mangez bien les tapas, puisque à Grenade, c'est bien connu. Il n'y a que ça. Merci Aurélie. Merci, à bientôt.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Elgar. Concerto pour violon, joué par notre ami Renaud Capuçon. Bonjour Renaud.
Bonjour Michel.
Violoniste connu du monde entier, on voulait vous avoir aujourd'hui dans cette émission parce que finalement vous avez pas mal de rapports avec la santé. Des choses un peu dramatiques et émouvantes, puisque chaque année au Festival d'Aix, vous donnez des concerts à des personnes en fin de vie. Pourquoi faire ça? Pourquoi donner des concerts à des gens comme ça? Et même, vous l'avez fait pour les sans-abri, c'est toujours dans le sens de ce partage que vous mettez en avant régulièrement?
Oui, c'est sur partage, et puis j'ai expérimenté récemment, personnellement, c'est bien fait sur mon propre corps, en jouant après des douleurs de dos épouvantables avec des jeunes musiciens, En jouant, tout d'un coup, j'ai senti une sorte d'apaisement incroyable en jouant des harmonies particulières et ma douleur disparaissait au fur et à mesure que je jouais. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté cette espèce de guérison par la musique et je suis persuadé qu'elle peut être un apaisement pour tous. Ça, j'en suis absolument convaincu.
On parle beaucoup des bienfaits du sport. Finalement, c'est tout ce qui est circuit de la récompense, le plaisir que l'on éprouve à faire des choses qui font sécréter par le cerveau des endorphines. Vous pensez que c'est ça? Vous avez tellement de plaisir à jouer que finalement, c'est un antalgique très fort?
Il y a ça, oui, bien sûr. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi le fait que la musique, par les harmonies, par les ondes qu'elle procure, vous fait du bien, vous apaise comme une caresse, si vous voulez. C'est prouvé que quand vous avez une brûlure, par exemple, si vous faites une caresse à l'endroit de la brûlure, la caresse prend le dessus sur la douleur. Ben, je pense que la musique, c'est exactement la même chose.
On vous a beaucoup vu pendant cette pandémie sur les réseaux sociaux. Hein, vous avez joué sur les réseaux. Comment se porte le milieu de la musique quand on n'a pas la chance de s'appeler Renaud Capuçon et d'être un soliste réclamé par les orchestres du monde entier? Est-ce que vous avez vu beaucoup de dégâts psychologiques et puis peut-être de carrières qui se sont arrêtées pendant cette pandémie?
Oui, c'est une période qui laissera énormément de traces. Beaucoup de mes collègues, parfois connus d'ailleurs, des gens dont vous achetez les disques et que vous allez écouter au concert d'habitude, ont eu du mal à payer leur loyer. Il y a eu des détresses psychiques énormes. Beaucoup de gens ont perdu ce muscle, si vous voulez, de rentrer sur scène. C'est pas facile. Quand on est habitué à rentrer sur scène une cinquantaine de fois par an et que tout d'un coup tout s'arrête, bah, il faut réapprendre tout ça. Donc je pense que
il faut réapprendre à gérer le stress de monter sur scène.
Oui, chaque fois que je me suis arrêté il y a quelques mois et que je suis remonté sur scène, on en parlait avec des amis en se disant bah, on a plus le trac. Par exemple, normalement, je fais ma valise en 5 minutes avant de partir en voyage. Et là, tout d'un coup, tout est devenu compliqué. C'est étonnant comme le corps s'est déshabitué à plein de choses. Alors c'est bien parce qu'on s'est reposé plus d'une certaine façon. On a apprécié le silence, on est allé plus à la campagne, ou je sais pas quoi. On a profité du silence de Paris. Mais il faut reprendre maintenant le chemin des concerts, de la dure loi du sport. C'est-à-dire que et quand on rentre sur scène, c'est comme si on se met à danser sur un fil devant 300 personnes ou 500, et il ne faut pas tomber.
Merci beaucoup Renaud Capuçon. Alors pour l'actualité, vous avez un disque qui est sorti le 5 mars 2021 sous le label Erato, et puis vous avez un nouveau disque à paraître en septembre, c'est ça ?
Absolument, qui sera consacré au compositeur À vos pertes.
Depuis mars, hein, vous tenez une chronique deux fois par mois sur RTL dans l'émission Laissez-vous tenter entre 9h et 9h30, donc chers collègues, merci, et puis en espérant que la saison va être merveilleuse pour vous, pour tous les musiciens et pour tous les spectateurs. Merci mille fois.
On espère. Merci Michel.
Merci. Que c'est beau quand c'est joué comme ça. Ah, Patrice, vous avez quelque chose à dire ?
Oui, la musique fait du bien, mais savez-vous ce que sont les personnes anhédoniques ? Musicaux.
Qui ne ressentent aucun plaisir à écouter de la musique.
Aprivatif, ouais.
Bravo.
Ouais, c'est ça.
Pas une larme, pas un frisson. Ils sont ultra minoritaires, mais ils existent. Ouais. Hein. La science estime qu'ils représentent ces gens-là qui ne ressentent rien en écoutant de la musique, entre 3 et 5% de l'espèce humaine.
Merci Patrice. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission avec coach Cricri qui va nous parler de rhythm.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Coach Cricri, aujourd'hui vous allez nous parler du rhythme biologique, le rhythm en anglais.
Voilà, comme la chanson.
Rhythm et blues. En espagnol, comment se dit
El ritmo.
El ritmo, ok. Alors, ce rythme biologique qui, s'il est bien entendu différent d'un individu à un autre, nous enseigne quelques passages obligés dans les 24 heures que comporte une journée.
Et c'est qu'il s'en passe des choses en 24 heures. D'ailleurs, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe de la fin de nuit au début d'après-midi. Et nous verrons le reste de la journée la semaine prochaine, en fait. Allez, je commence. Il est 6h30, 6h45, c'est le moment de la plus forte augmentation de votre tension artérielle. C'est normal, vous vous dirigez vers le réveil, votre système cardio remonte en pression pour démarrer la journée. Vers 7h30, c'est la fin du cycle de sécrétion de l'hormone du sommeil, la fameuse mélatonine. La nuit est derrière vous. Physiologiquement bien éveillé, vous pouvez entamer la journée qui commence. Et c'est pas plus mal que vous soyez bien éveillé, parce que vers 8h, 8h30, il y a un moment important, comment le dire avec légèreté. En fait, c'est le meilleur moment pour soulager vos flancs d'un inopportun fardeau.
Puisque c'est George Sand, ça,
voilà. Je sais pas, mais puisque c'est le moment où l'intestin se réactive vraiment, donc si à ce moment-là vous ne dormez pas, c'est quand même pas plus mal.
Ça ouais,
vous
connaissez une blague, je oui, le sens
vous
venir.
Connaissez la... sens oui, venir. L'histoire de ce monsieur qui va voir son médecin, qui lui dit « Docteur, je suis très embêté parce que tous les matins, à 7 heures précises, je fais popo ». Alors le médecin lui dit « Mais c'est pas un problème, c'est une forme de régularité, c'est plutôt bien ». Il dit « Oui, mais le problème, c'est que je me réveille à 7h30
». Alors, heureusement que c'est à ce moment-là, parce que vers 9h, juste après donc la revanche du cassoulet de la veille, il y a un pic de testostérone. Résultat, on serait là pile poil au bon moment pour se les mélanger les poils, voyez, pour...
Voilà, alors, pour je précise, Christophe, toutefois que la testostérone concerne les hommes et les femmes, et que si elle contribue chez les femmes au développement osseux et musculaire, à la ménopause, diminuant considérablement, elle offre aussi les effets que nos amis constatent avec regret, fragilisation du squelette, une fatigue plus importante, et puis la fonte musculaire et le ramollissement, celui notamment visible et qui énerve beaucoup les dames quand on joue avec. vers l'arrière du bras.
Oui,
vous voyez,
la,
vers
la chauve-souris, c'est voilà, ça, chauve-souris, l'aile de chauve-souris.
Le drapeau.
Donc je continue ma journée. Il est 10h, c'est à ce moment-là, à 10h, que la vigilance est à son meilleur niveau. Vous serez hyper productif et efficace, par exemple pour les tâches complexes qui appellent analyse et réflexion. Pour vos réunions avec vos clients ou avec votre patron, votre cerveau sera en état de performance maximum. Précision, ce laps de temps entre 9h et 11h, testostérone et grande vigilance aidant, est aussi idéal pour faire du sport et pour le faire en forçant un peu. C'est un très bon moment pour taper dedans un peu, comme on dit. Ouais. Je passe l'heure du déjeuner, il est 14h, 14h30. Vous êtes dans le parfait timing pour tout ce qui demande de la coordination, de l'adresse pour l'exécution de tâches qui exigent technique et nécessitent une grande dextérité. C'est en ce début d'après-midi que vous êtes le plus adroit.
C'est bien beau tout ça, mais moi je pourrais vous donner plein d'exemples, hein, de personnes qui sont hyper productives le soir, pleines de désirs sexuels au milieu de la nuit, pour qui les tâches complexes sont un jeu d'enfant le matin tôt, qui vont aux toilettes en plein milieu d'après-midi.
C'est marrant, on dirait une autobiographie.
J'ai un pote.
C'est pour un ami.
Cette chronobiologie que je donne aujourd'hui, c'est une moyenne en fait. Et attendez, là on a vu que la moitié de la journée, je vous dirai la semaine prochaine ce qui se passe entre l'après-midi, la soirée et la nuit.
Donc moi j'ai quand même noté que l'émission était entre 9 et 10 15, heures, ouais. Et donc c'est là, pic de testostérone, vous dites,
ouais, ça va être le moment. Voilà, exactement. Bon, normalement, nos auditeurs peuvent avoir du désir à ce moment-là.
Bah,
c'est
ils
possible.
Peuvent écouter l'émission tout en faisant des galipettes le matin. Il n'y a pas de souci. Ouais. Emma.
Bah, moi, j'ai une petite idée de cadeau pour tous les des tout jeunes parents, justement. C'est le Bébé Grave. C'est un livre qui vient juste de sortir aux éditions des Arènes. Un ouvrage qu'on doit à un couple de jeunes parents qui est fait d'infographies remplies d'infos et bourré d'humour aussi. Alors, il aborde en graphique l'évolution des convictions anti-tétines de la maman qui chutent drastiquement dès le deuxième jour de vie du bébé, les peurs parentales, les dangers qui menacent le bébé en cartographie, et le budget couche aussi, c'est assez marrant.
Patrice,
est-ce que vous connaissez le syndrome des jambes sans repos ?
Oui.
Bah oui.
Merci, bonsoir.
Merci, Christophe.
Alors c'est quoi, Christophe ?
Non, mais c'est les jambes qui bougent un peu inconsciemment, malgré la conscience de la personne,
ah
qui
oui,
sont toujours en mouvement.
Courant, ouais,
pendant la nuit. Pendant la nuit.
Ouais, ça ressemble à une décharge électrique. Et vous savez d'où ça vient ? C'est à cause de quoi ?
Alors ça peut être dit à une carence en fer, je crois. Le reste, je sais pas. Je peux vous dire, alors, parce que j'ai tourné une émission des pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Carambeu. J'ai servi de cobaye pour une nuit dans un labo où j'ai été bardé d'électrodes et de tout. Et on m'a filmé et j'ai de temps en temps ce.
Sans vous en être jamais
aperçu.
Je suis des coups. Comme ça. Bah, je dormais tout seul, remarquez.
Alors, c'est un trouble du système nerveux et parfois il s'agit d'un mauvais dosage de la dopamine, ce fameux neurotransmetteur qui influence tous nos comportements. Et alors, ces jambes sans repos, lorsqu'on a cette décharge électrique dans les jambes, vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça une. C'est très poétique.
Une
impatience.
Ah oui, c'est une impatience, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Emma, Patrice et Christophe. Merci, chers auditeurs. Et puis, une petite dernière de Frédéric Dard. Il faut mourir pour profiter pleinement de sa popularité. À méditer. Et on termine, comme toutes les semaines, avec cette belle chanson de Sacha Distel. On se retrouve la semaine prochaine, 9h15, sur RTL pour l'hebdo. On sera là et avec beaucoup de plaisir. Au revoir, les amis.
À dimanche.
Bonne semaine.
Oui, la belle vie.
RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et on traîne.